Les médias sont un miroir de la société. Voici une phrase que l'on entend souvent. Aujourd'hui, notre société a plusieurs visages et autant de cultures. Pourtant, ce n'est pas le cas du journalisme. Dans ce métier, les personnes racisées, on entend par là les individus assignés à un groupe minoritaire, sont sous-représentées. Leur absence, elle se remarque dès la formation. En France, il existe 14 écoles de journalisme reconnues par la profession. On y accède grâce à des concours où le niveau requis est Bac plus 3. Quelle est leur proportion d'étudiants racisés? Nous n'avons pas les chiffres. Dans notre pays, il est interdit de faire des statistiques basées sur l'ethnie. En revanche, les photos et témoignages en disent long. Dans cet épisode, on va essayer de comprendre d'où vient ce manque de mixité et comment il se perpétue.
Vous écoutez Oppression, le podcast de la section radio du QEJ consacré au racisme. Journalisme, le syndrome de la page blanche. Un épisode signé Lia Roisin-Pillot.
La photo de classe, c'est un rituel. Les écoles de journalisme n'y échappent pas. Sur les clichés des dernières promotions, un détail ne passe pas inaperçu. Qu'il s'agisse de l'IJBA, du QEJ ou encore de l'ESJ, l'écrasante majorité des étudiants sont blancs. Comment expliquer ce déséquilibre ? Premièrement, par l'origine sociale des élèves. En master, 40% d'entre eux sont enfants de cadres supérieurs, un constat de l'Observatoire des inégalités. Dans notre société, il existe un lien entre la classe sociale et l'ethnie. Voilà pourquoi la proportion de blancs dans ces grandes écoles est plus importante qu'ailleurs. Mais ce n'est pas l'unique raison. Laurine Garassi a 23 ans, la jeune femme est noire, à deux reprises, elle a tenté les concours de journalisme, mais sans succès. D'après elle, sa couleur de peau ne l'a pas aidée.
C'est plutôt mon expérience des oraux, en fait. Voilà, les oraux des concours de journalisme en fait, m'ont montré déjà que je devais en faire plus que les autres. Il n'y a pas beaucoup de gens comme moi, qui était admise à l'oral, et que c'était pas de la tarte, quoi. Non, en fait, je voyais bien que c'était quelque chose que j'avais une pression supplémentaire durant ces oraux-là. Et pourquoi ? Bah parce que je suis une personne non blanche, en fait. Parce qu'en fait, déjà être arrivée jusque-là, déjà être admise en école, déjà être admise à l'oral d'une école de journalisme que je voulais beaucoup, c'était quelque chose qui était voilà, inespéré. Mais en fait, je sentais que c'était pas assez. Je sentais en fait que quand je m'entraînais aux oraux face à des faux jurys, voilà, face à des journalistes, face à des étudiants, il y avait un truc qui manquait et me le faisait ressentir. Il y avait un truc qui bloquait quand je devais parler de moi, quand je devais parler de mon rapport au journalisme. À chaque fois, j'avais l'impression que je trouvais dans un écueil, qu'il y avait des mots qu'il fallait pas dire, qu'il y avait des expressions qu'il fallait pas dire. Donc, il y avait vraiment des mots qui, dans ma bouche, à cause de mon apparence, étaient rédhibitoires, en fait. Donc, je devais essayer de pas dire que moi, en tant que personne noire et en tant que fille dénigrée, je constate dans les médias, je constate dans les écoles de journalisme qu'il n'y a pas assez de personnes comme moi. J'ai l'impression d'avoir dit un gros mot, j'ai l'impression d'avoir dit quelque chose de complètement déplacé, et on me faisait comprendre que oui, mais non, mais en fait, mais non, mais en fait, et c'est ça pendant 3 semaines.
Aujourd'hui diplômée d'un master de géopolitique et relations internationales, Laurie n'a pas oublié les concours. Elle a comparé son expérience à celle d'autres étudiants.
Les personnes non blanches, en plus, qui ont intégré les écoles, m'ont dit, ouais, pareil, je suis passée par là, elles m'ont compris sur tous les points. Mais Laurie, en fait, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça, c'est après. Après, quand tu rentres dans l'école, tu pourras t'exprimer. On m'a dit ça une fois ou deux fois. Puis après, j'ai creusé. En fait, elles m'ont dit non. En fait, c'est comme ça. Tu passes la porte qui est minuscule et quand tu rentres dans l'école, ah bah, c'est pareil, c'est pas pire, mais ils n'ont pas vraiment de différence pour certains, certaines. Hein. Elles m'ont dit bon, voilà, on est comme si, on est bien les seules personnes non blanches. J'ai plusieurs fois été victime de ci, de ça, etc. Et elles m'ont expliqué de vive voix. Puis, j'ai vu les témoignages de la JAR aussi, de personnes qui font partie de l'association des journalistes antiracistes et racisés, qui sont intégrés ce fameux système et qui me disent, bah, en fait, non. Tout ce mal pour ça. Donc, en fait, ça m'a confortée dans le fait que, ouais, j'ai bien fait de ne pas être prise.
Ce témoignage pose la question du jury. Sur quels critères sélectionne-t-il les étudiants ? Pour y répondre, la Conférence nationale des métiers du journalisme a publié un rapport. Voici ce qu'on peut y lire.
Les directeurs, responsables et formateurs s'accordent sur une définition principalement sociale de la diversité et refusent une acception en termes ethniques.
En clair, les jurés évitent la discrimination positive. Ils refusent de favoriser un candidat en raison de son origine ou de sa couleur de peau. Nous voilà 2 ans plus tard. Les jeunes journalistes sont fraîchement diplômés, ils se lancent sur le marché du travail. Les grandes rédactions sont à l'affût. Elles embauchent principalement les sortants de ces 14 écoles. Conséquence, on retrouve dans les médias les mêmes profils que dans les masters. Pas plus de mixité, pas plus d'ethnicité. Un exemple a beaucoup fait parler. Tout commence avec la publication d'une photo. Elle est prise en 2015 et on y voit les membres d'une rédac, celle du quotidien de gauche, Libération. Dans ce journal, le racisme est un cheval de bataille. Pourtant, sur la photo, la quasi-totalité de l'équipe est blanche. Scandale, les critiques se multiplient. À l'époque, David Carzon est directeur adjoint de la rédaction. Il raconte les réflexions en interne.
C'est une photo, je ne sais plus comment elle a été publiée, mais les gens ont dû l'utiliser pour la publier sur les réseaux sociaux et ensuite... Elle nous est revenue en boomerang avec cette comment dire avec ce commentaire qui est que voilà Libé est une rédaction de blancs qui était une réflexion assez juste dans les faits. Libé à cette époque était une rédaction vraiment blanche, je le dis entre guillemets parce que c'est quand même une manière de parler qui peut être un peu violente. Ce que cette photo montre pas, c'est le travail qui était en train d'être fait. Pour justement remédier à ça. Parce que ce constat, il avait déjà été fait en interne quand la nouvelle équipe dirigeante est arrivée, et principalement par Johan Ufnagel, qui était le directeur de la rédaction. C'était quelque chose dont on discutait déjà beaucoup en interne, avec la volonté de changer un peu les choses et d'embaucher des personnes qui reflètent beaucoup plus la diversité de la population française. Donc, cette photo est une réalité, c'est un travail qu'on est en train de mener et qu'on a continué de mener dans les mois suivants pour essayer que la rédaction soit plus diverse.
Au moment de la polémique, moins de 10% de la rédaction était non blanche. Pour y remédier, les recruteurs ont fait de la discrimination positive et ils ne s'en cachent pas.
C'est des politiques RH qui sont toujours, compliquées à faire, malheureusement, parce que je crois que Johan avait eu une phrase assez cash en disant que à compétence égale, il embaucherait quelqu'un issu de la diversité. Ça s'appelle la discrimination positive et c'est quelque chose qui n'est pas du tout accepté en France. Dans les faits, en fait, quand on a repris la direction de Libé, il y avait eu un plan social avec beaucoup de départs, mais on avait aussi la possibilité d'embaucher pas mal de jeunes pour renforcer l'équipe. Et on a privilégié des personnalités, des personnes issues de la diversité pour occuper les postes qui étaient importants pour nous à combler. Et donc, on avait une démarche assez volontariste et notamment on avait une idée qui était de pas mettre les personnes issues de la diversité pour s'occuper des problèmes de banlieue, en fait, pour le dire un peu de manière caricaturale. Mais par exemple, de nommer quelqu'un à la politique et tuer la politique et dans la presse un service toujours un peu prestigieux. Le faire avec justement un regard un peu nouveau et un peu différent de ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent.
Il n'y a pas que la presse, tous les médias sont concernés. Les journalistes racisés y sont rares, tellement rares que parfois, leur simple présence a créé l'événement. Un journal télévisé est resté dans les annales, celui d'Harry Roselmack. Il présentait le 20h de TF1, une première en France pour un journaliste noir, c'était en 2006.
Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce lundi. Actualité largement dominée par la situation au Proche-Orient entre raids aériens israéliens.
Ce journal ressemble à un autre, pourtant il a marqué durablement le journalisme français. La mixité est nécessaire à cette profession. Si les profils sont similaires, les modes de pensée sont similaires. Et donc, la façon de traiter les sujets est la même. Une rédaction entièrement blanche, cela augmente les risques de clichés, de biais, voire même d'ethnocentrisme, le fait de juger la culture des autres à l'aune de sa propre culture. Diversifier, cela permet de prendre du recul, de confronter des visions, bref, l'essence même du journalisme.
C'était Oppression, le podcast de la section radio du QUEJ consacré au racisme. Cet épisode a été imaginé et fabriqué par Lia Roisin-Pillot en novembre 2024. Coordination Thomas Rozek et Céline Aslo. Réalisation Jean-Christophe Galen. Tous les épisodes sont à retrouver sur le site du QUEJ, QUEJ.info.